CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui dans le mag sur CFM Lacaune, je vous propose de retrouver Daniel Lodo. Vous le connaissez peut-être puisque ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit. Daniel Lodo qui est président de l'association Corda e la Talvera, basée à Cordes mais qui rayonne vraiment sur toute l'Occitanie. Alors bonjour monsieur Lodo.
Bonjour à tout le monde.
Bonsoir et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vous reçois pour un tout nouveau livre, un recueil des légendes d'Occitanie. Alors légendaire d'Occitanie, ça c'est le titre. Alors ce livre, on peut dire, c'est une deuxième édition, puisqu'en 2005, il y avait déjà eu une première édition, mais qui a été modifiée avec des légendes qui vont s'étendre un peu plus loin que l'Occitanie, qui vont même aller en pays catalan, c'est ça?
Oui, complètement. Disons qu'en 2005, on avait édité un premier ouvrage, et qui portait surtout sur le département du Tarn, sur l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, qui débordait à peine un petit peu sur l'Hérault, l'Aude, mais très peu, et du coup, et qui était illustré de photos en noir et blanc. Et du coup, on s'est dit qu'on a retrouvé tout un tas de légendes depuis. On a fait des enquêtes pour le parc régional au Languedoc. On s'est dit, comme il était épuisé depuis très longtemps, on s'est dit, on va le rééditer avec des photos en couleur. Voilà, chose faite.
Donc c'est un magnifique, ouvrage hein, de 312 pages. Vous l'avez dit, avec de belles photos en couleur. Et vraiment, on en apprend à toutes les pages. C'est vraiment, à la fois le légendaire avec les diables, les dragons, les géants, mais aussi un petit peu les légendes modernes, les histoires qu'on se passe en famille.
Oui, parce que le légendaire, c'est quelque chose de très important quoi, dans les traditions orales et qui a bien résisté. C'est-à-dire qu'on peut encore aujourd'hui trouver des légendes et même encore... Le livre est sorti, donc il y a un mois à peine, en me promenant dans les monts de Lacaune, j'étais encore mardi pour collecter, pour enregistrer des gens. Ou ailleurs, je trouve encore de nouvelles légendes. Donc ça veut dire que c'est une matière inépuisable, qu'on peut toujours en trouver d'autres un peu partout.
Mais c'est vrai, justement la question que j'allais vous poser. Enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est finalement qu'on continue à trouver des légendes, des récits. En se promenant, comment vous faites en fait? Comment vous trouvez ces nouvelles légendes? Comment vous allez à la rencontre des gens? Tout simplement, vous tapez à la porte?
Oui, ça peut se passer comme ça, mais généralement, on a une liste de noms, parce que quand on va voir quelqu'un, l'autre jour on était à Vabre, par exemple, pour enregistrer une dame, et on lui demande si elle connaît pas d'autres personnes qui parlent encore occitan dans la région, et qui auraient des choses à raconter, et puis elle nous a donné deux ou trois adresses. Donc voilà, ce sont des personnes qu'on ira voir dans quelques temps, et c'est toujours un petit peu comme ça, ou alors c'est des gens qui nous disent, voilà, on connaît une telle personne qui est la mémoire du village. Ça peut être des animateurs de radio, des fois, qui nous disent, oh, quelqu'un nous a téléphoné l'autre jour, elle a l'air de connaître plein de choses, voilà, si vous voulez aller la voir. Ouais, c'est un peu, puis des fois, ce sont des rencontres au hasard. C'est-à-dire, quand on a fait les enquêtes pour ce livre, pour cette nouvelle édition, mais des fois, on s'est promené dans des coins qu'on ne connaissait pas du tout, ou qu'on connaissait moins bien, comme la Lozère ou les Hautes-Pyrénées, et on rencontrait des gens sur le bord du chemin, on leur demandait, mais ça n'est pas qui compte, je suis d'accord. Voilà. On m'a dit, vous connaissez pas quelque chose, cette pierre qui est là. Et là, on découvrait des merveilles.
Et est-ce qu'il y a peut-être, parce que c'est quasiment 40 ans de collecte que l'on retrouve dans ce légendaire, est-ce qu'il y a peut-être une légende qui, à vous, vous a marqué ou qui restera pour vous, je ne sais pas, vraiment spéciale? Peut-être la première, peut-être la dernière, je ne sais pas.
Je ne sais pas, bon, c'est sûr, il y en a plein. Ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui résiste, quoi, le légendaire, et pourtant, ça a été, depuis le début des temps, on a essayé de faire abandonner ce genre de croyance, parce que souvent c'est de l'ordre de la croyance, comme par exemple ce qu'on raconte sur les dolmens avec les géants, ou choses comme ça, et que ce soit l'église ou l'école, ont essayé de faire disparaître ces récits-là. Et on voit qu'ils ont énormément résisté. Alors, par exemple, dans votre région, ce qui est étonnant, je trouve, moi, c'est l'abondance de légendes autour de la petite sauvage. Il y en a dans tous les villages, pratiquement, des monts de Lacaune. Partout où il y a des grottes, mais on raconte une légende de petite sauvage que les gens... qui faisait peur aux gens ou qui sortait de temps en temps pour annoncer aux gens les changements de climatique, ou que les gens allaient les gens des fois allaient leur porter de quoi manger.
Manger.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, ça rejoint la légende, rejoint l'histoire, puisque c'est l'endroit où on a trouvé la sauvage au
Oui.
début du 19e siècle, et d'autres sauvages, d'autres lampins sauvages qui ont été recueillis plus tard même dans cette région-là. Alors c'est étonnant de voir que là, dans ce coin, la légende rejoint complètement la réalité.
Et est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus propices aux légendes où il va y avoir un foisonnement? Je pense par exemple ben, au Cidobre qui est proche aussi, puisqu'avec ces gros blocs de granit, on sait qu'il y a un légendaire assez important autour. Est-ce que voilà, il y a des lieux comme ça dans la région Occitanie qui sont vraiment, vraiment remplis de légendes?
Oui, alors souvent ce sont les zones montagneuses, effectivement, que ce soit les monts de la Cône, la montagne Noire, le Nord Aveyron, partout ce qu'il y a partout ce qu'il y a des reliefs un peu particuliers. Les zones calcaires également, puisqu'il y a des failles, il y a des trous, il y a des avennes, il y a des choses comme ça. Donc chaque fois qu'il y avait quelque chose qui étonnait les gens, qui les fascinait, parce que c'était un peu différent du reste, on crée une légende. Alors, les endroits où il y a beaucoup de dolmens aussi, ou beaucoup de menhirs, il peut y avoir surtout les dolmens, parce que les statues menhirs, comme elles ont été enfouies dans la terre depuis très longtemps, et qu'on les retrouve que maintenant, alors, le légendaire a peut-être un peu disparu. Il y a plutôt un néo-légendaire qui se crée autour des statues de menhirs, mais par contre, les dolmens, la faille de débat, comme on disait en Occitan, là, c'est vraiment c'est cette masse de cailloux, ces cailloux les uns sur les autres. Ça a fasciné les gens depuis très longtemps. Donc il y a des croyances, il y a des légendaires autour.
Et alors
Ça peut être
vous...
aussi des arbres, ça peut être aussi des arbres particuliers, des chênes séculaires ou des grands châtaigniers, des choses comme ça, qui peuvent donner naissance soit à des légendes, soit à des croyances ou à des ce qu'on appelle aussi des récits d'expérience. Et où les gens pensent qu'il peut y avoir des revenants, des fantômes, des choses comme ça.
CFM Lacaune. Le mag.
Merci d'être à l'écoute du mag. C'est la seconde partie d'une émission consacrée à un livre légendaire d'Occitanie qui est proposé par Cordae La Talvera, l'association occitane du pays Cordée. Et nous sommes avec l'auteur Daniel Lodo qui est avec nous sur les ondes de CFM. Alors, monsieur Lodo, on a déjà parlé en première partie d'émission. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller réécouter cette première partie d'émission, eh bien, de un peu la composition de ce livre de 312 pages avec de très belles photos et puis des légendes venues d'Occitanie, même du pays catalan. Juste avant la pause, vous nous avez parlé des néo-légendes. Est-ce qu'on continue finalement à créer des légendes?
Parfois, ça peut être des légendes complètement nouvelles, ou bien ça peut être une réactualisation d'une légende plus ancienne. En 2003, par exemple, on avait trouvé dans la région ces légendes là autour des pierres de la sécheresse. Et
Oui.
les gens disaient que bon, en 2003, ces pierres avaient apparu dans les rivières. Mais en creusant un petit peu, on s'était rendu compte que déjà, ils le racontaient en 49, que en 1949, au moment d'une grande sécheresse, qu'ils le racontaient aussi avant la guerre de 14. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ce légendaire, non seulement il est la réactualisation de quelque chose de plus ancien, mais il peut être aussi la réappropriation d'un fait réel qui peut exister dans d'autres pays. Notamment pour les pierres de la sécheresse, on sait que au bord du Rhin, au bord du Danube, il y a vraiment des pierres où il y a marqué quand tu me reverras, tu pleureras. Alors qu'ici, on n'a pas vraiment retrouvé l'inscription, mais il y a la légende.
Mais il y a la légende. Donc, on voit aussi que ben, c'est un voyage à la fois dans le temps, mais dans l'espace aussi, puisqu'on voit aussi ben, justement ces liens avec d'autres légendes ailleurs dans le monde.
Oui, le légendaire, il est intéressant pour ça. C'est un peu comme les contes, quoi. C'est qu'il est à la fois universel, mais aussi inscrit complètement dans le territoire. C'est pour ça qu'on peut retrouver ici les mêmes légendes qu'on peut retrouver à l'autre bout du
Du
monde.
monde.
Mais il n'empêche que ces légendes, comme les contes, racontent quand même l'histoire du pays. En l'occurrence, c'est l'histoire des monts de la Cône, pour ce qui me concerne.
Alors, enfin, chaque fois que je tourne une page, parce que alors, j'avoue que je n'ai pas lu les 312 pages, je n'ai pas eu encore le temps, mais c'est vrai aussi, on peut voyager on va dire d'un type de légende à un autre. Et il va y avoir aussi, on a parlé un peu de tout ce qui était naturel, les grottes, les trous d'eau, mais il y a aussi tout ce qui sont les constructions. Je sais pas, je suis tombée sur, par exemple, les légendes de Sainte-Trope, hein, à Castanello, pas loin d'ici aussi. Enfin voilà, il y a aussi un légendaire autour des constructions, beaucoup autour des ponts aussi.
Oui, parce que il y a plusieurs types de légendaires. Donc, il y a le légendaire mythologique, on va dire, qui se rapporte à la construction du paysage, pardon. Mais il y a aussi le légendaire historique, donc, qui se rapporte il y a beaucoup de légendes de fondation, par exemple, qui expliquent pourquoi telle église a été fondée à tel endroit, pourquoi telle petite chapelle a été fondée au sommet d'une, voilà, comme à Castanet le haut pour
Oui.
Sainte-Trope. Et donc ça permet de voyager un petit peu de raconter aussi l'histoire. L'histoire peut se raconter aussi à travers ce légendaire. Je pense notamment aussi au pont du diable,
Oui.
par exemple. Alors pourquoi il y a partout, il y a des ponts qu'on attribue au diable. Au départ, les gens pensaient qu'il n'y avait que le pont du Gard, mais en fait, on en a repéré une quarantaine, quoi, dans la région. Mais autrement, on en avait un à Théiette, on en a un au-dessus de Vabre, qui est le pont de la Boulière. Il y a un à Jouquevielle, dans le Ségala-de-Tarnais. Il y en a un à Olarve, il y en a partout, quoi. Il y a le pont du Diable. Et ça se rapporte à une période beaucoup plus récente que les légendaires dont on parlait tout à l'heure, des grottes. Ça, ce sont des légendes qui remontent au Moyen-Âge. Et encore, il y a des ponts du diable qui n'ont qu'une centaine d'années, comme si le diable continuait à construire, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est fou, mais enfin, ce livre, finalement, j'ai une question à vous poser. Dans quelles mains on devrait le mettre? Un passionné d'histoire, un passionné de voyage, un enfant peut-être. Alors un enfant peut-être, mais en tout cas pour certaines légendes, ça peut être intéressant. Enfin, qui devrait feuilleter cet ouvrage?
Ben, je pense que c'est tout le monde peut le feuilleter parce que c'est une façon de reconstruire le territoire de façon symbolique. C'est-à-dire que, et ça je le vois bien quand je donne des conférences, que je raconte des légendes aux gens du pays. Parfois, je tombe sur des gens qui les connaissent, mais parfois des gens qui ne les connaissent pas, notamment des jeunes générations. Et du coup, ils se rendent compte que là, autour d'eux, il y a il y a du mystère, il y a du merveilleux, il y a des choses à découvrir de façon différente que ce qu'on leur a enseigné jusqu'à présent. Je pense que ça peut intéresser aussi les gens qui s'intéressent à l'histoire, parce que c'est une autre façon de raconter l'histoire. Je prends par exemple l'histoire de dolmen qui est à côté de Cordes, là, à Vaours. L'histoire raconte, ce dolmen est fendu. Les historiens racontent qu'il est pendu parce que il y a eu un hiver très rigoureux en 1709, 1710, et que le froid aurait fendu la pierre. Mais la légende raconte que c'est Gargantua et Samson qui auraient fendu le dolmen en donnant un coup de, en se disputant au jeu de cartes. Donc voilà, une façon plus poétique peut-être de rencontrer le pays, de raconter l'histoire. Et du coup, par rapport aux touristes aussi, par rapport aux gens qui viennent habiter la région, mais de te lire ce livre, ça peut leur permettre de rencontrer les gens en leur demandant, mais vous pouvez m'accompagner à ce dolmen, j'arrive pas à le trouver, vous qui êtes du pays, vous savez où il est. Voilà, donc une façon de créer du lien entre les gens qui arrivent, les gens qui habitent ici, et les gens qui viennent visiter le pays de façon ponctuelle. Et puis les enfants, je pense que pour les enfants, c'est une façon de leur raconter, comme quand on leur raconte des contes. On peut leur raconter des histoires, les amenant sur le terrain. Moi, je le fais parfois dans le Sud-Ombre ou ailleurs. Quand on reçoit des classes, ben on va visiter une grotte. J'avais amené une classe de Lyon une année dans la grotte de la Petite Sauvage de Cambounès.
Oui.
C'est étonnant pour les enfants de voir. Et du coup, ça leur permet de garder un souvenir complètement différent de leur excursion dans notre région.
Donc il faut
Et
pas
surtout
hésiter.
que ces légendes,
Oui.
et surtout que ces légendes, elles sont en occitan aussi, donc ça fait référence aussi à la langue du pays. Parce que nous, on les a la plupart du temps recueillis en occitan.
Oui, voilà, parce qu'elles sont soit en occitan, soit aussi, on l'a dit, hein, en catalan, il peut y avoir de l'occitan limitrophe un petit peu, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est accessible à même quelqu'un comme moi, hein, qui ne parle pas du tout occitan. Voilà, on peut à la fois voyager par la langue, voyager par les lieux, les photos. Si on a envie de se procurer l'ouvrage, où c'est qu'on le trouve? Parce que vous l'avez dit, ça fait un mois déjà qu'il est en vente et il part comme des petits pains. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il marche très bien. Donc, on le retrouve où dans toutes les librairies, les points presse locaux?
Oui, alors on n'a pas eu le temps encore
de le mener
de
partout.
Partout, mais vous le trouvez facilement à la Conne, par exemple, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci, et donc on peut
à
aussi...
Alban, à la Conne, très bientôt aussi à Vianne, à Vabre, un petit peu partout.
Oui, je l'ai vu mais aussi à La Case, je crois, enfin voilà, hein, dans le coin, on le
voilà,
trouve.
Voilà, oui, à La Case, on le trouve aussi. Mais comme on n'a pas, voilà, comme on n'a pas de distributeur et qu'on va nous-mêmes
déposer.
Les déposer dans les librairies, on ne connaît pas... très nombreux, on n'arrive pas à le mettre partout d'un coup, voilà.
Oui, mais en tout cas, ben voilà, on commence quand même à le trouver. C'est 29 euros, c'est 312 pages, c'est des photos en couleur et c'est vraiment, enfin vraiment, on en apprend toutes les pages. Même moi, en étant animatrice maintenant depuis un moment et en ayant récolté aussi pas mal de légendes, et ben j'en ai découvert vraiment un paquet. Donc merci beaucoup en tout cas, Daniel Lodo, pour ce travail. Et si on veut découvrir le livre, ben on se rend dans les librairies locales. Merci beaucoup.
Merci à vous, Adicias.
Adicias.